Quel privilège d'être à nouveau ici. En tout cas, je me réjouissais de revenir. Le chirurgien en chef d'un très grand hôpital arrive en trompe aux urgences. De renommée internationale, il est respecté de tous, ses collègues, son personnel et ses patients. Il se rend directement en salle de préparation, se trouvant à côté de la salle d'opération. Et là, il tombe nez à nez avec le papa d'un garçonnet qui fait des va-et-vient incessants dans le couloir, près du bloc opératoire. Ce dernier est fou de rage. Il hurle sa colère aussi violemment qu'il lui est possible de le faire. Il a peur. Son petit garçon est aux urgences. Entre la vie et la mort. Rien ne peut le calmer, absolument rien. Pourquoi avez-vous pris tout ce temps pour arriver jusqu'ici? Vous ne savez pas que mon garçon, a besoin qu'on s'occupe de lui. S'il meurt, ça sera de votre faute. Pourquoi ne répondez-vous pas? Vous n'avez donc aucun respect ni aucun sens des responsabilités. Vous étiez probablement sur un parcours de golf. La vie de mon petit ne faisait probablement pas le poids comparé à l'enjeu de votre tournoi. Malgré la violence des propos et la menace physique que représente cet homme furieux, le chirurgien prend sur lui et dit d'une voix autoritaire mais posée : Je suis vraiment désolé d'arriver seulement maintenant. Je ne me trouvais pas à l'hôpital lorsque j'ai été appelée. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Maintenant, je dois opérer votre fils. Calmez-vous et asseyez-vous pendant que je fais mon travail. Me calmer? Vous plaisantez, j'espère. Je serais bien curieux de savoir quelle serait votre attitude si votre enfant était entre la vie et la mort. Si c'était le vôtre, dites-moi, que feriez-vous? Mais quel culot! Le médecin se force à sourire et répond : Je dirais, de la poussière nous sommes venus et à la poussière nous retournerons. Béni soit le nom du Seigneur. Les médecins font ce qu'ils peuvent. Ils ne décident pas qui va mourir ou qui va vivre. Priez pour votre fils. De notre côté, nous ferons tout notre possible par la grâce de Dieu. Donner des conseils, pour vous c'est si facile, vous n'êtes pas concerné. Allez donc faire votre travail au lieu de perdre votre temps à donner des conseils inutiles. Le médecin disparut par la porte automatique. Après s'être préparé minutieusement, le chirurgien entra au bloc et mit son talent et ses compétences au service pour sauver le garçon. J'invite sans plus tarder John Fisher qui va venir nous faire la lecture de Matthieu 7, 1 à 5.
Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi tu as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère.
Merci beaucoup, John. Voici un passage fort bien connu. Qui est placé à l'intérieur des béatitudes, aussi appelé le serment sur la montagne. Ce n'est vraiment pas un texte glamour, vous me direz, mais c'est un texte qui s'est imposé à moi. C'est un passage qui est très souvent mal compris et mal utilisé. Qui d'entre vous a déjà entendu une personne dire « Ne juge pas afin de ne pas être jugé » ou encore « Tu n'as pas le droit de me juger, qui es-tu ? Tu ne connais pas mon cœur. Dieu seul peut me juger. » Qui d'entre vous a déjà entendu cette phrase ? Levez la main s'il vous plaît. Il y en a quand même plusieurs, ouais, nombreux. Ne juge pas. Puis, entre chrétiens, au nom de l'amour, on ne dit rien. Mais ne rien dire, est-ce vraiment de l'amour ? Dieu seul peut me juger est une expression populaire qui va bien au-delà des cercles chrétiens. On la trouve dans des tatouages, sur des t-shirts, dans des slams, etc. Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère du relativisme, l'ère de la tolérance. Le sens et la valeur des croyances et des comportements humains n'ont plus de référence absolue. Surtout en ce qui concerne la morale, tout est OK. Toi, tu as ta vérité et moi, j'ai la mienne. Cependant, nul n'est impartial. Ceux qui prennent parti pour la tolérance sont extrêmement intolérants envers ceux qui ne partagent pas leur opinion. J'ai intitulé ce message « Jugement ou discernement ». Le verbe « juger » du verbe « krino » signifie « condamnation ». Il revêt plusieurs sens, de la condamnation juridique à l'évaluation d'une situation. Dans les deux premiers versets de Matthieu 7, l'auteur utilise quatre fois la même terminologie qui milite pour un sens fort. Juger, être jugé, jugera, aurait jugé. Qui es-tu pour me juger ? Dieu seul peut me juger. Cette phrase clôt toute discussion. C'est comme quand on dit « Dieu m'a dit ». Ça clôt aussi toute discussion. Il n'y a plus rien à dire. Si Dieu a dit, qu'est-ce qu'on va dire de plus ? C'est une échappatoire pour ne pas se justifier ou s'expliquer. Durant de nombreuses années, je prenais ces versets à la lettre. Ne jugez pas, ainsi de suite, afin de ne pas être jugé. À chaque fois que j'évaluais une situation et que j'opposais un jugement de conscience sur une situation et ou une personne, je me trouvais tiraillé intérieurement, surtout dans le monde du miraculeux, dans le monde des miracles, de guérison et ainsi de suite, un milieu où j'ai été durant de nombreuses années et j'étais tiraillé de voir ce qu'on disait sur la guérison, ce qu'on prônait, puis en fin de compte, les choses avec lesquelles je n'étais pas en adéquation complètement personnellement. Puis je me disais chaque fois, oh, j'ai jugé, ce n'est pas bien, je vais être jugé de la même façon. Vous connaissez tous Romains 14, 4. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son serviteur. Je me repentais d'avoir omis un jugement encore et encore. J'étais toute malheureuse, en conflit avec moi-même. Mais c'était plus fort que moi. Est-ce que j'avais une bonne compréhension et interprétation de ce passage ? Qu'est-ce que Jésus entend par le fait de ne pas juger ? Jésus juge parfois, surtout les pharisiens. Il les traite d'hypocrites, d'insensés, de faux prophètes, et j'en passe. Bon, c'est Jésus, vous me direz. Il est parfait et irréprochable. Il peut se permettre. Mais pas seulement lui a fait ça. Les disciples ont fait la même chose. Ne pas juger n'empêche pas d'appeler les choses par leur nom. Appelons un chat, un péché, un péché. Jésus et les apôtres ne se privaient pas de juger les comportements inadéquats. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, serpents, race de vipères. 1 Corinthiens 5, 11 à 13, c'est Paul qui parle. Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle. et toujours désireux de posséder plus, idolâtrie, calomnieur, ivrogne ou voleur, de ne pas manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur ? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger ? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Ce que ce texte nous apprend, c'est que nous sommes appelés à juger ceux, à ne pas juger ceux de l'extérieur, pardon, c'est-à-dire les non-chrétiens. Mais pourquoi Jésus dit « ne jugez pas » si nous sommes appelés à juger ceux de l'intérieur, notamment nos frères et sœurs en Christ dans l'Église? Dans le sermon sur la montagne, Jésus s'adresse à ses disciples. Il leur explique, et par leur intermédiaire, il nous explique aujourd'hui ce qu'implique d'être un disciple. Toujours plus refléter le Christ dans nos faits et gestes. Que ce soit dans notre rapport à la parole de Dieu, dans nos relations et dans la pratique du pardon. Le propre de l'être humain est son aptitude à la réflexion, sa capacité d'évaluer, de juger les faits et gestes en fonction de sa conscience, de son éducation, de sa propre morale ou de son éthique. Sans cette faculté de jugement, nous serions qu'un amas de cellules. Dieu nous a donné une intelligence et un esprit critique afin que nous l'utilisions pour poser des jugements d'ordre éthique et de logique. Voici comment le grand dictionnaire de la Bible Excelsis définit le jugement. L'idée du jugement n'est pas celle d'une évaluation impartiale et détachée du bien et du mal, mais d'une action vigoureuse contre le mal. Donc le jugement est une action vigoureuse contre le mal. Nous sommes appelés à trancher entre le bien et le mal, entre le juste et le faux. Jean 7, 24. Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. Juger nécessite la raison, tandis que le discernement s'opère au niveau de l'esprit, de la conscience. Vous vous posez peut-être la même question que je me suis posée. Comment, dans notre nature pécheresse, pouvons-nous apporter un jugement juste et équitable ? Jésus répond indirectement à cette question. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que tu as une poutre dans le tien ? Je crois profondément que Jésus parle ici d'un jugement destructeur et dévastateur. Lorsque nous posons un jugement de mépris et de condescendance, ça nous rassure en tant qu'être humain. En abaissant et jugeant une personne, nous nous sentons supérieurs à elle. Cela vient très souvent de notre histoire de vie, de nos blessures. Mais ce n'est pas juste. Posons, on juge en faisant cela. Je pense que chacun de nous, à un moment donné ou à un autre, a subi un tel jugement. Peut-être que l'autre côté nous est également familier. En tout cas, à moi, il m'a déjà été familier, pour être tout à fait honnête avec vous. Nous rassurer, nous élever en enfonçant les autres, et on se sent supérieur. Nous connaissons tous des personnes qui nous énervent ou des personnes qui sont plus difficiles à aimer. Bien évidemment et bien souvent, nous repérons chez les autres les mots M-A-U-X que nous-mêmes nous souffrons. Je trouve que c'est très révélateur, la poutre et la paille. L'être humain a une capacité hors norme à voir le mal chez les autres, mais pas chez soi. En tout cas, là, je parle de nouveau à moi-même. Soyons autant sévères envers nous-mêmes que nous sommes envers les autres. Voici la suite de mon histoire avec le chirurgien. L'opération fut difficile, délicate, stressante, interminable et dura plus de 7 heures. Le chirurgien sorti du bloc et dit aux parents, « Gloire à Dieu, votre fils est sauvé. Tout s'est très bien passé. Maintenant, si vous avez des questions, posez-les à l'infirmière. » Aussitôt dit, le chirurgien se dirigea en courant vers l'extérieur. Le papa s'exclamant en voyant l'infirmière, « Mais quel grossier personnage! C'est une vraie honte, cet homme! Comment peut-on être aussi froid et aussi arrogant? Ne pouvait-il pas seulement prendre quelques minutes pour nous donner un peu plus de détails sur l'état de notre fils? Était-ce trop demandé? Ces grandes pontes, sont-ils tous aussi snobs et hautains? » L'infirmière respira profondément. Elle lutta pour ne pas pleurer. Cependant, les larmes coulaient le long de sa joue, sans qu'elle ne puisse les arrêter quand elle commença à répondre. « Je suis désolée, mais le docteur ne pouvait rester plus longtemps après l'opération. Son fils est mort il y a 3 jours dans un accident de voiture. Il est mort sur le coup. Il était à l'enterrement de son fils unique au moment où il a reçu notre coup de téléphone, signalant qu'il devait accourir pour une opération d'urgence. Il a tout de suite quitté la cérémonie et maintenant que votre fils n'est plus en danger, il est reparti pour assister à la fin de la cérémonie d'adieu. Le jugement, selon l'enseignement de Jésus, est un jugement étroitement lié à un Dieu miséricordieux, bon, juste et vrai. Je trouve que l'attitude de ce médecin reflète fort bien la grâce, la compassion et l'amour de Dieu. Romains 3, 23, 24. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus attend de nous, ses disciples ? Il attend que nos jugements soient empreints de grâce, d'amour, de douceur et de compassion. Que nos critiques soient constructives. Que nous construisons nos contemporains et les aidons à grandir. Que nous refusons de condamner les autres. Que nous respectons les autres sans excuser le mal. Si on voit quelque chose qui ne nous convient pas chez nos frères et sœurs, pourquoi ne pas commencer à prier pour cette personne? Que nous posions des questions pour mieux comprendre. Que nous vivions une vie de pardon et de repentance. Ceci est essentiel dans la foi. Ce n'est pas un appel à être aveugle, mais un appel à être généreux. La réprimande fait partie de la vie chrétienne. Nous reprendre les uns les autres, cela fait partie de la vie chrétienne, les amis. Ce n'est pas juste pour l'extérieur, ce n'est pas juste écrit dans la parole de Dieu. Ça nous aide à grandir. C'est comme le couple, un couple, le conjoint est là pour l'édification de l'autre. Et je trouve ça magnifique. Le mariage, le conjoint est vraiment là pour que nous aider à entrer toujours plus dans la sanctification. Et l'Église, à une autre mesure, a aussi ce rôle. Et c'est juste magnifique de nous aider à devenir toujours meilleurs, de meilleures personnes. Nous avons tous nos travers. Oser se dire les choses dans l'amour, le vrai, c'est un cadeau. Cela nous aide à grandir dans la sainteté. Parlons toujours en « je » parce que le « tu », il tue. Je pense sincèrement que l'on peut tout dire à une personne si celle-ci se sent profondément aimée, accepté, respecté, valorisé et reconnu. Comment savoir si notre jugement est juste et adéquat? En tout premier, faire une introspection. Est-ce que nous jugeons par orgueil ou par sentiment de supériorité ou d'infériorité? Est-ce que ça sert mes propres intérêts ou ceux des autres? Si une personne m'énerve, est-ce que ça vient refléter quelque chose que j'ai en moi? Très souvent, les choses qui peuvent nous embêter chez les autres, c'est exactement les choses qu'on a soi-même. Se soumettre les uns aux autres. Voici quatre ingrédients pour contrer l'esprit de jugement. L'humilité, l'amour, la prière et la grâce de Dieu envers chacun de nous. N'oublions pas que juger les autres, c'est aussi se condamner soi-même. Que dire pour éviter un mauvais emploi de la phrase « Dieu seul peut me juger » ? Je vais évaluer tes remarques à la lumière de la Bible. Merci pour cette réprimande. Je crois qu'elle est justifiée. Je vais y réfléchir avec l'aide de Dieu. Merci pour cette réprimande, mais je ne crois pas que ce soit justifié. On ne doit pas tout accepter. Je voudrais t'expliquer pourquoi. Dieu est le seul juge. Voudrais-tu prier avec moi afin que Dieu nous montre son regard sur cette affaire ? Voici des réponses remplies d'humilité qui aident à grandir dans la sainteté et la sanctification. Pour finir, je vais prier. Ouais, merci Seigneur pour ta parole qui n'est pas toujours facile à entendre. Merci parce que tu l'as mis dans l'écriture, tu as inspiré les auteurs, Seigneur, pour que nous puissions toujours plus entrer dans la sanctification, toujours plus entrer dans la sainteté. Merci pour ton corps, Seigneur. Merci pour cette église, pour cette chapelle. Merci pour chacun qui est là aujourd'hui. Je te demande que tu nous aides à pouvoir toujours plus entrer dans tes plans, Seigneur, toujours plus apprendre à trancher entre le bien et le mal, apprendre à dire ce qui est juste, ce qui est faux, apprendre à se positionner aussi, Seigneur. Aide-nous à grandir, Seigneur, toujours plus près de ton trône de grâce, de ta présence, et que tu fasses toujours plus ton œuvre de sainteté, de sanctification en nous, par la seule grâce de Jésus-Christ.